dans un quotidien imprimé. C'est parfois encore dans des magazines, des hebdomadaires imprimés, mais c'est en tout cas pas dans des quotidiens imprimés. Et donc, on parlera tout à l'heure de cette circonstance tout à fait particulière que traversent aujourd'hui les médias, c'est ce bouleversement total de leur modèle économique depuis l'apparition d'Internet et depuis l'apparition de toute une série d'habitudes de consommation nouvelles nées, disons, ces 20 dernières années. Mais je voulais en terminer sur cette idée de télévision et de médias de relation. Aujourd'hui, l'important, c'est donc de créer une connivence, de procurer des émotions. Hein, toute cette stratégie de programmation et cette stratégie d'information des médias d'aujourd'hui se concentre sur l'idée qu'il faut surfer sur les émotions. Et comme souvent les politiques font un peu la même chose, ils surfent aussi sur nos émotions. Ils prennent des dispositions, ils font voter des lois, etc., qui sont des lois, comme on dit, d'émotion. Hein, des lois qui semblent répondre à une nécessité, mais qui sont en fait simplement des réponses purement symboliques à des craintes ou à des émotions qu'on croit être nées dans l'opinion. Il y a donc une coïncidence, une collusion, une complicité, pourrait-on dire, entre cette stratégie émotionnelle des médias et la stratégie émotionnelle de la classe politique qui surfe sur les émotions. Vous venez peut-être de Van Thames, hein, ce jeune homme qui avait tué une nounou d'origine africaine avec son bébé à Anvers. Dans les 3 jours, il fallait une loi sur les armes, qui n'avait aucun sens et qui d'ailleurs n'a pas pu être appliquée. Michel Martin a été libéré conditionnellement beaucoup trop tôt selon un certain nombre d'éditoriaux ou selon un certain nombre de personnes, souvent manipulées d'ailleurs. Du coup, il fallait modifier les conditions de la libération conditionnelle, c'était impératif, et ça allait apporter une amélioration de la situation, je ne sais pas très bien laquelle, mais en tout cas, cette émotion-là devait trouver une réponse symbolique dans les décisions politiques. Et depuis lors, il y en a plein. Après les attentats de novembre, le plan en 18 mesures du gouvernement, la Ligue des droits de l'homme a fait une analyse et elle a pu se rendre compte que ces 18 mesures, elles étaient soit inutiles, soit nuisibles. Soit elles existaient déjà. Donc, voilà. Mais il fallait donner le sentiment à l'opinion publique qu'on faisait quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Et donc cet effet politique, si vous voulez, de ces médias compassionnels, émotionnels, qui surfent sur l'émotion, on a pu voir un exemple tout à fait frappant en 2002. C'est un exemple historique, vraiment, en ce qui concerne la violence. Alors, le thème de la violence, c'est un thème très porteur pour les médias, parce que c'est très simple à traiter. Tout le monde peut comprendre les circonstances d'un meurtre, d'un acte de violence, d'une émeute, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Ça fait appel à notre cerveau reptilien ou limbique, si vous voulez. On n'a pas besoin de son cortex préfrontal pour comprendre ce qui s'est passé. On peut être en pleine compassion, s'émouvoir de ce qui s'est passé, ces pauvres gens qui ont été victimes, etc. Il ne faut pas beaucoup faire d'études pour raconter non plus. Le journaliste qui fait ça, ou le caméraman, ou le gars qui va sur le terrain pour raconter un fait divers, il ne doit pas avoir fait 7 ans d'études de psychologie comportementale pour dire, voilà, il y a eu 2 victimes, on a tiré d'ici, et pour aller interviewer les voisins qui n'ont rien vu, mais qui sont très émus. Donc, c'est très pratique, ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup, parce que ça fait de l'audience. Alors, ce thème de la violence, il a subi un épisode tout à fait caractéristique en 2002. D'abord, il faut savoir que ça marche très bien. Par exemple, en 10 ans, la couverture médiatique des crimes de sang aux États-Unis et de la violence domestique a augmenté de 700%. 7 fois plus. Il y a 7 fois plus de temps consacré par l'ensemble des médias américains aux crimes de sang, aux violences, etc. Alors que pendant ce même temps, sur ces mêmes 10 ans, les crimes de sang ont diminué d'à peu près 15% aux États-Unis. Malgré tout ce qu'on croit et pense, les États-Unis ne sont pas dans une vague de croissance des crimes de sang, malgré la vente libre des armes, etc. Et si on parle de violence, c'est pourquoi ? Ben parce que, je l'ai dit, c'est simple, et puis surtout, ça suscite chez nous des émotions très fondamentales, la crainte, l'inquiétude, etc. Et cette inquiétude, elle est d'autant plus forte qu'on est isolé socialement. Toutes les études le montrent, les études de sociologie des médias montrent que quand les gens sont isolés socialement, qu'ils vivent par exemple dans des petits villages, qu'ils n'ont pas beaucoup de contacts sociaux, contrairement à vous, qui participez à des activités, etc., et qui sont très isolés, qui vivent chez eux, qui sont seuls devant leur poste de télé, par exemple, plus on est comme ça, plus on a tendance à être inquiet. Alors dans des villages isolés de la campagne où il ne se passe jamais rien du tout, il n'y a pas un seul étranger, il n'y a jamais de crime, il n'y a jamais rien, les gens vous disent « N'ose plus sortir de chez moi, monsieur. » Avec tout ce qu'on voit à la télé. N'ose plus sortir de chez moi. Donc il y a ce phénomène-là qui est évidemment inquiétant pour la société, et surtout pour le fonctionnement de la société, parce que ces gens-là, et beaucoup de gens, disent « Plus rien ne marche, la justice, la police, on ne peut plus faire confiance aux institutions, on ne peut plus faire confiance à la classe politique, on ne peut plus faire confiance aux partis, à la presse, à tout ce que vous voulez, à l'école, enfin, plus personne ne mérite confiance, tout va mal. » Et ça, c'est quand même inquiétant pour l'avenir d'une société et d'une démocratie. Alors, ce qui s'est passé en 2002, c'est ceci. Si vous vous souvenez, en 2002, il y a eu, en France, une élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Bizarrement, tout à coup, à partir de janvier 2002, les médias français se sont mis à multiplier les reportages, les informations, les sujets sur des actes de violence. Alors, actes de violence, c'était de toutes sortes. Des hold-up, des émeutes, des meurtres, des passages à tabac, des vols de voitures, des braquages, des interventions policières. Entre janvier et mai 2002, la télévision française toutes chaînes confondues, a consacré 18 766 sujets à ce genre d'épisodes, soit 987 sujets par semaine. Soit surtout une croissance de 126% par rapport à la même période de l'année précédente. 126%, donc considérable. Or, il n'y a pas eu, dans les statistiques, quand vous regardez les statistiques, pour autant qu'on puisse faire confiance aux statistiques policières, si vous voulez, on peut en parler, mais c'est surtout une statistique d'activité policière, pas une véritable statistique de violence ou de criminalité. Donc, mais les statistiques ne montraient absolument aucun signe d'augmentation notable de la violence en France. Et quand on demandait aux gens, quand on faisait des sondages, pour de savoir quelle était leur préoccupation fondamentale, ils répondaient le chômage, les retraites, mais pas la violence. Et pourtant, donc, augmentation terriblement importante de ce sujet dans les médias. Mais pas seulement à la télévision, dans tous les médias. Un indice UBM, c'est un indice d'unité de bruit médiatique, a été mesuré. Je passe le détail sur la manière dont on le calcule, mais cet indice indiquait que de mars 2001 à mars 2002, le sujet dominant dans tous les médias français, c'était l'insécurité. Loin devant le chômage ou les retraites. Et en mars 2002, le sommet était atteint. 3700, l'indice UBM, 3700 contre 530 pour la situation économique, par exemple. Vous voyez la disproportion. Qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, il y avait une campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle. Campagne électorale dans laquelle étaient engagés essentiellement Jacques Chirac, Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Le premier à répondre a été Jacques Chirac. Il a commencé à dire aux Français « Ah, j'ai compris quelle était votre préoccupation fondamentale, parce que c'est ce qu'ils voyaient dans les médias. C'est la sécurité, et si vous votez pour moi, moi je prends les mesures qu'il faut pour arrêter ça, et ça va être formidable, vous allez voir comme je vais prendre les choses en main. » Jospin a mal réagi, il n'a pas embrayé tout de suite là-dessus. Et puis il y a eu le premier tour, des élections présidentielles. Vous vous souvenez certainement des résultats de ce premier tour. Hein, Chirac, Le Pen. Alors, entre les deux tours, bizarrement, le nombre de sujets consacrés à la violence a diminué de 64% sur tous les médias français. Donc il faut croire que la violence entre les deux tours, peut-être parce que les gens ont eu peur de Le Pen, je ne sais pas, la violence entre les deux tours a bizarrement diminué de 64%. 67%, pardon, 67%. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un certain nombre de gens disent que c'est un complot des grandes chaînes de télévision privées qui voulaient absolument que ce soit la droite qui passe et qui voulaient absolument écarter le risque d'un succès électoral de la gauche et qu'ils ont donc fomenté cette espèce de complot. Ça me paraît très peu vraisemblable, d'autant plus que, par exemple, un des principaux vecteurs de cette campagne sur la violence, c'était la chaîne de service public, c'était France 2. C'était Daniel Bilalian qui présentait le journal à 13h à ce moment-là. Et on a calculé que tous les jours, dans les 10 premiers mots qu'il prononçait, il y avait le mot violence. Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'emballement médiatique. Un média important, dominant, met à l'agenda, met sur le devant de la scène, un soi-disant phénomène ou un soi-disant événement, les autres médias concurrents ne peuvent évidemment pas rester à la traîne. Il faut qu'ils apportent quelque chose, mais qu'ils apportent quelque chose de plus, évidemment. Ils ne se contentent pas de répéter ce que le premier a dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des éléments, on va rajouter des détails, ou on va rajouter des commentaires. On va mettre de la viande autour de l'os. Des commentaires qui, évidemment, vont être repris par d'autres qui vont faire des commentaires sur les premiers commentaires, etc., etc. Troisième média reprend les commentaires, plus les commentaires des commentaires, et éventuellement d'autres témoignages de gens qui n'ont rien vu mais qui sont très frappés, comme toujours. Et puis, le quatrième média va encore faire plus, etc. Donc il y a une espèce de boule de neige qui commence à grossir, et donc ça devient une sorte de phénomène social, mais dont on ne sait pas très bien comment il est né. Et évidemment, à partir du moment où vous pensez, en tant que responsable d'une rédaction, que la violence c'est vraiment le sujet, vous trouvez toujours de quoi alimenter ce sujet. Tous les jours, il y a des actes de violence. Tous les jours, il y a des jeunes qui embêtent les femmes dans les trains. Mais quand il y a eu les événements de la gare de Berlin, de Cologne, pardon, des jeunes qui embêtent les femmes dans les trains, ça devient tout à coup un événement qui mérite un éditorial. Donc il y a cette espèce d'auto-alimentation de la logique médiatique. Il faut considérer l'événement et le construire en fonction de son retentissement, et éventuellement ce retentissement, on va le bâtir de A à Z. On va le construire entièrement. On va faire en sorte qu'il soit plus important qu'il n'est. Parce que ça constitue l'image et ça renforce la popularité, la résonance du média. Et ça, c'est évidemment un peu inquiétant, parce que ça veut dire que les représentations collectives suscitées partiellement par les médias vont évidemment avoir un effet politique, par exemple. Si vous regardez l'Europe d'aujourd'hui, dans les 28 pays de l'Europe, il y a une montée incontestable de partis populistes, de partis qui spéculent sur des sentiments d'insécurité, sur des sentiments de déréliction, de déliquescence, etc. L'impression que ça va mal, qu'on perd le contrôle du monde dans lequel on vit, etc. Et ces partis, en apportant des réponses très simples à des questions complexes, gagnent effectivement en influence. On ne peut pas se départir de l'idée que ce succès du populisme politique est quelque part lié aussi au populisme médiatique, si vous voulez. Dans la mesure où on brandit une loupe, où les médias brandissent une loupe devant un certain nombre d'événements, cette représentation exagérée, cette représentation grossie d'un certain nombre d'événements va influencer éventuellement le vote d'un certain nombre de personnes. Et comme disait Honoré de Balzac déjà il y a un siècle et demi, pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des sentiments. Donc, c'est aussi une manière de gouverner, d'une certaine façon, ou en tout cas de solliciter les suffrages. Alors aujourd'hui, ce phénomène est amplifié, et considérablement amplifié, par ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire l'apparition et la généralisation des réseaux sociaux, des réseaux de socialisation, pour être plus exact, sur Internet. Internet a deux effets. Un premier effet, c'est de mettre en péril le modèle économique de la presse, et notamment de la presse imprimée, puisque je vous l'ai dit, le nombre d'exemplaires papier diminue, le nombre de lecteurs papier diminue. De plus en plus de gens consultent uniquement les sites Internet, mais sur les sites Internet, on ne gagne pas d'argent. La publicité qui pourrait éventuellement financer ces sites Internet, elle va surtout aux agrégateurs de contenu, elle va à Google, elle va à Facebook, elle va à des opérateurs comme ça, et pas aux sites d'information. Les sites d'information, on recueille une partie, mais c'est très insuffisant et ça ne comble en tout cas pas, ça ne compense pas les pertes occasionnées par la baisse du tirage.